Le chemin vers la terre promise est encore long. Et surtout, le pharaon et ses troupes, eh bien, vont revenir à la charge. Mais Dieu est avec son peuple. Et de nouveau, de manière radicale dans notre texte, il y aura une différence entre les Israélites et les Égyptiens. Nous voyons par le texte que Damaris a lu pour nous, un Dieu en pleine action. Un Dieu victorieux, un Dieu guerrier. Dieu combat pour son peuple. Et sa victoire éclatante suscite la louange d'Israël. Gloire au Dieu vainqueur. Dieu a sauvé son peuple. Et nous savons que c'est à mettre en lien avec une délivrance qui est encore plus grande, qui a lieu plus tard dans l'histoire, quand Dieu nous a sauvés du péché, de la condamnation, de la mort par Jésus-Christ. Nous l'avons chanté. Et ce que nous venons de lire en Exode 13 à 15 est l'ombre. L'ombre déjà magnifique, mais seulement l'ombre d'une réalité encore plus belle. Si les Israélites pouvaient être fiers de ce que Dieu avait fait pour eux au moment de leur libération, nous pouvons être fiers de ce que Dieu a fait pour nous au moment de notre libération accomplie par Jésus. Bien plus, et par conséquent, nous avons des raisons de célébrer Dieu, de chanter ce qu'il a fait, à la manière de Moïse et du peuple d'Israël. Parce que ce que Dieu a fait, dans sa grâce et dans son amour, doit nous amener à l'adorer. Doit nous amener à reconnaître que nul n'est comme lui. Et je vous propose que nous puissions voir de plus près dans notre texte ce que Dieu a effectivement fait. D'abord, Dieu sauve. Ensuite, Dieu conduit. Et enfin, Dieu fait éclater sa gloire. Dieu sauve, Dieu conduit et Dieu fait éclater sa gloire. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, qui est capable de prêcher correctement ta parole ? Ce n'est sûrement pas moi, ni aucun prédicateur ici-bas. Mais nous voulons compter, Seigneur, sur le fait que ton esprit agit avec ta parole. Et que ce que nous allons entendre de ta part, eh bien, sera vraiment ce que tu nous dis cet après-midi. Seigneur, rends-nous attentifs à ta voix. Et que, au-delà de ce que je peux dire, Seigneur, eh bien, ça soit ta parole qui fasse écho dans notre cœur, qui nous interpelle, qui nous fait nous poser des questions, qui nous amène à changer. Et merci pour ton esprit qui est à l'œuvre. Merci pour ce que tu es en train de faire à ce moment précis cet après-midi. Et tout cela, Seigneur, nous voulons te le demander au nom de Jésus. Amen. Dieu sauve d'abord. De toute évidence, ce récit met l'accent sur le Dieu qui sauve. C'est particulièrement le cas au moment, dans ce moment de grande tension. Vous savez, quand le peuple hébreu se trouve coincé entre la mer qui est devant eux et les Égyptiens qui les poursuivent. Pourtant, c'est Dieu qui les a menés jusque-là. Pourrions-nous dire que c'est Dieu qui les met en difficulté, en fait, en les conduisant à cet endroit? Et effectivement, puisque le peuple se sent en danger, il crie à Dieu, mais pas de la bonne manière. Ils se plaignent. Ils auraient tellement préféré rester en Égypte. À peine sorti et déjà en train de se plaindre. Et malheureusement, ce sera une attitude récurrente chez les Israélites. Et ce, malgré tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils continueront à se plaindre encore et encore. Et la réponse de Moïse à leur plainte est la suivante. Au chapitre 14, verset 13, Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur. » Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Silence. Regardez ce que Dieu va faire pour vous. Regardez ce que Dieu va faire aux Égyptiens, vos bourreaux, ceux qui vous ont réduits en esclavage. N'ayez pas peur et regardez en silence et avec confiance. Et malgré ces plaintes d'un peuple immature, Dieu va quand même les secourir dans sa grâce. Peut-être que ça peut nous rappeler que parfois, lorsque nous nous mettons à nous plaindre aussi, malgré tout, Dieu est prêt à nous secourir, à nous tendre la main dans sa grâce. Dieu déploie sa puissance d'abord pour ouvrir un chemin au milieu de la mer. Moïse, d'ailleurs, n'a qu'à tendre la main. Il n'a juste que ce geste à faire et la mer s'ouvre peu à peu à la force du vent envoyé par Dieu. La création, nous voyons la création au service du Créateur alors qu'il est en train d'offrir cette issue de secours pour les Israélites. Et nous ne l'avons pas lu tout à l'heure, mais c'est tout aussi incroyable que Dieu se place entre les deux camps. Et j'aimerais attirer votre attention avec le verset 19, chapitre 14, verset 19. L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Incroyable. Nous aurons l'occasion de reparler tout à l'heure de la colonne de nuée et de feu. Et la suite, eh bien, nous la connaissons. D'ailleurs, nous l'avons peut-être déjà vue dans des adaptations de films. En dessin animé. Peut-être vous avez vu Le Prince d'Égypte. On connaît la suite. Le peuple passe à pied sec la mer des roseaux. Et l'armée du Pharaon, le cœur endurci, n'hésite pas à s'y engager également. Et là, rendez-vous compte que même Hollywood n'est pas à la hauteur d'un tel script. Verset 24. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée. Et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. » La mer se referme sur les poursuivants. Et bilan des pertes, verset 28, « Il n'y eut pas un seul rescapé. » Chars, chevaux, cavaliers, avec le pharaon, tout a été englouti. Et nous lisons en versets 30 et 31, « Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. » Cette délivrance spectaculaire qui passe par le jugement terrible des Égyptiens est donc l'œuvre de Dieu seul. Les Israélites n'ont pas combattu. Ils ont essayé de s'échapper, tant bien que mal, mais c'est Dieu qui les a délivrés. Qu'est-ce que Dieu a fait dans notre texte ? Il a débarrassé son peuple de ses ennemis, de ses anciens maîtres. Les Israélites ne reverront plus ceux qui les ont tant fait souffrir. Et paradoxalement, nous l'avons entendu tout à l'heure, ils voulaient quand même retourner en Égypte. Dieu a sauvé son peuple et il a fait de même pour nous, à une autre échelle. Et assurément, avant de connaître Christ, nous étions dominés par le péché, esclaves du péché. L'apôtre Paul emploie un tel langage. Romains chapitre 6, versets 20 à 22. « En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Est-ce que nous nous rendons compte encore aujourd'hui à quel point le péché nous fait souffrir ? À quel point le péché gâche notre vie ? Le péché est comme ce maître qui veut nous garder esclaves. Mais Dieu a voulu nous en libérer. Pour que nous passions de cet ancien maître qu'est le péché au nouveau maître qu'est le Seigneur. C'est pourquoi je n'ai aucun problème à me désigner comme un esclave de Dieu. Comme appartenant à ce nouveau maître qui veut mon bien, qui veut me rendre saint, qui me donne la vie éternelle alors que le salaire du péché c'est la mort. Et nous savons que si Dieu peut faire un tel don immérité pour nous, c'est précisément parce que Jésus s'est offert à la croix. À la croix, comme nous l'avons chanté, mon sauveur innocent a été cloué. Nous pouvons le dire assez rapidement lorsque nous parlons de la croix, mais n'oublions pas que c'est une personne qui est clouée sur la croix. On n'aimerait pas subir ce genre de sort. À la croix, mon sauveur a porté tous mes péchés, toutes mes impuretés, tout ce qui est sale en moi, jusque dans mes pensées. À la croix, mon sauveur a été puni à ma place. À la croix, mon sauveur m'a libéré. J'ai changé de maître. Me voici libre de vivre une vie nouvelle qui n'a rien à voir avec mon passé, avec ma vie d'avant, quand je ne connaissais pas Dieu. Oui, je suis libre de vivre une nouvelle vie qui n'a rien à voir avec mon passé. Dois-je le dire encore une fois, combien cette délivrance par Jésus-Christ est plus extraordinaire que ce que les Israélites ont vécu à la mer des roseaux. D'ailleurs, le prophète Michée parle de cet épisode, mais pour annoncer l'œuvre de Christ. Michée chapitre 7, versets 18 à 19. « Quel Dieu est semblable à toi ? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Michée fait référence à ce qui s'est passé au temps de l'Exode. Pour annoncer l'œuvre de Christ, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. À la croix, Dieu a clairement combattu pour nous. C'est lui qui a englouti nos péchés au fond de la mer, de telle sorte qu'ils n'en tiennent plus compte. Par la mort de Jésus, par sa résurrection, celles et ceux parmi nous qui ont mis leur confiance en lui obtiennent le pardon, obtiennent la réconciliation avec Dieu. Nos péchés ont été jetés au fond de la mer. Nous avons été pardonnés. Et chaque fois, et tout à l'heure nous avons aussi prié dans ce sens-là, chaque fois que nous revenons à Dieu, nous pouvons être assurés qu'il nous pardonnera encore et encore et encore et encore. Jusqu'à ce qu'il nous débarrasse entièrement du péché. Tout comme Dieu a débarrassé son peuple des Égyptiens, Dieu veut nous débarrasser complètement de nos péchés. Oui, un jour, lorsque Jésus reviendra, le péché que nous voyons aujourd'hui, nous ne le reverrons plus. Le péché que tu traînes avec toi depuis des années, le péché que tu as du mal à supporter chez les autres, le péché qui fait que notre monde est si corrompu, un jour, nous ne le reverrons plus. Dieu sauve, très clairement. Mais Dieu conduit aussi. C'est ce que nous voyons dans notre texte. C'est l'Éternel qui indique les étapes du voyage. Les Israélites n'iront pas en Canaan par le chemin le plus direct. Il y aura des escales. Beaucoup d'escales. mais ils seront accompagnés par leur libérateur. Bien sûr Moïse, mais surtout Dieu. Dieu, le Dieu de leur père. Dieu, le Dieu qui a fait des promesses. Et c'est pour ça que lorsque nous regardons au chapitre 13, verset 19, nous avons cette allusion à Joseph. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça fait là ? Chapitre 13, verset 19, « Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph, car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël en disant, « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. » Oui, n'oublions pas que Dieu avait annoncé depuis bien longtemps qu'un jour les Israélites sortiraient d'Égypte et iraient en Canaan, le pays promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu a promis cela et il est en train, dans ce texte que nous sommes en train de parcourir cet après-midi, il est en train de le réaliser. De manière visible pour tous, Dieu accompagne, conduit son peuple durant leur voyage. Et c'est ce que nous voyons au verset 21, chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça. Marcher jour et nuit. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils dorment, mais marcher jour et nuit. Verset 22, la colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dieu toujours présent avec son peuple. Constamment. Dans le désert, il n'y a pas de panneau, hein. Et à l'époque, il n'y a pas Google Maps. Mais Dieu guide physiquement son peuple par cette colonne de nuée et de feu. L'Éternel a fait sortir son peuple de l'Égypte et maintenant il décide de son itinéraire. C'est pas le peuple qui va essayer de trouver son chemin. Mais Dieu a des étapes à faire franchir. Et c'est Dieu qui décide de l'itinéraire. Et nous venons de regarder là à l'instant le début du texte, chapitre 13. Regardons maintenant la fin de notre section, au chapitre 15. Chapitre 15, verset 13. « Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La douleur s'empare des Philistins. Les chefs des hommes sont épouvantés. Un tremblement s'empare des guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan perdent courage. La terreur et la frayeur les surprendront. Devant la grandeur de ta puissance, ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. » Verset 17, « Tu les conduiras et les établiras sur la montagne de ton héritage, à l'endroit que tu as préparé pour ta demeure éternelle, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. » Dans ces versets que je viens de lire, il apparaît clairement que la sortie d'Égypte n'est qu'une première étape. Les Israélites vont croiser sur leur chemin plusieurs peuples qui seront terrifiés à cause de ce que Dieu a fait pour Israël. Mais au bout du chemin, et je vous pose directement la question, au bout du chemin, quelle est la destination ? Quel est le point d'arrivée ? Dites-moi. Canaan. Oui, il n'y a pas de piège hein, dans ce que je dis. Canaan. Mais c'est pas comme ça que c'est dit ici, dans notre texte. Verset 13, vers ta sainte demeure. Verset 17, sur la montagne de ton héritage, à l'endroit que tu as préparé pour ta demeure éternelle, au sanctuaire. Et ça, c'est très important. Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte pour les conduire vers sa demeure. Vers le lieu où Dieu habitera au milieu d'eux. C'est-à-dire, effectivement, le pays de Canaan, qui deviendra le pays d'Israël, et plus particulièrement, le lieu où sera édifié le temple à Jérusalem, sur le mont Sion. Nous comprenons alors que si l'Éternel a libéré son peuple, c'est pour le conduire jusqu'à lui, vers le lieu qu'il a choisi sur terre pour établir sa demeure. Jusqu'à sa maison, pourrait-on dire. Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte pour le conduire jusqu'à sa maison. Dieu veut que son peuple soit là où il est. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Et plus tard dans l'Exode, il sera question de construire un tabernacle pour que Dieu soit avec son peuple, même dans le désert. Dieu veut habiter avec son peuple. Est-ce que cette idée ne vous rappelle pas un peu une parole que Jésus a dite un jour à ses disciples ? Oui, non ? Jean 14, verset 3. Et puisque, c'est Jésus qui parle, puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, c'est quoi la suite ? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et juste avant, Jésus parlait de la demeure de son Père. Avons-nous saisi que si Dieu nous a libérés par l'œuvre de son Fils, Jésus-Christ, c'est pour nous conduire jusqu'à sa véritable demeure. Notre vie sur terre n'est qu'un voyage temporaire, avec bien des étapes, mais c'est Dieu qui décide de l'itinéraire. Et c'est aussi Dieu qui nous conduira à bon port. Et à la fin de la lettre aux Hébreux, l'auteur écrit, Hébreux chapitre 13, verset 14, « En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. » Ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Comprenez bien ceci, parce que je voudrais le préciser. Il n'y a pas de souci avec le fait d'avoir une maison ici-bas. D'être installé dans une ville, dans un pays, peut-être jusqu'à la fin de nos jours, toujours au même endroit. Mais ce n'est pas notre cité permanente. Il y a infiniment mieux que le lieu où nous nous trouvons actuellement. Infiniment mieux. Apocalypse chapitre 21, versets 2 à 4. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée, qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Dieu nous fait sortir de l'esclavage du péché pour nous conduire jusqu'à sa demeure. Et nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Nous ne sommes pas encore dans ce temps où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Nous ne sommes pas encore arrivés sur notre terre promise, sur la nouvelle terre, dans la nouvelle création préparée par Dieu. Mes amis, ne nous laissons pas éblouir par tout ce qui nous est proposé dans ce monde. Ne souhaitons pas retourner en arrière comme les Israélites ont voulu retourner en Égypte devant la première difficulté. Regardons à la véritable destination de notre vie en tant que peuple libéré. Dieu nous a libérés de l'esclavage du péché pour nous conduire jusqu'à sa demeure. Veux-tu être dans sa demeure ? Et je ne parle pas ici de ce lieu. Veux-tu être dans sa demeure ? Et si nous sommes effectivement en chemin, est-ce que nous sommes maîtres de l'itinéraire ou bien est-ce que nous sommes conduits par le maître de l'itinéraire ? Comment Dieu a-t-il conduit le peuple d'Israël ? Par la colonne de nuée et de feu qui symbolisait sa présence au milieu du peuple. Et comment Dieu nous conduit-il maintenant, aujourd'hui ? Qu'est-ce qui indique qu'il est présent dans notre vie ? Bien sûr, c'est par son esprit qu'il nous conduit. Et déjà, Ésaïe, le prophète Ésaïe faisait ce rapprochement. Ésaïe 63, verset 11. « Alors que son peuple s'est souvenu des jours passés, de l'époque de Moïse, Où est-il celui qui les a fait ressortir de la mer avec les bergers de son troupeau? Où est-il celui qui mettait son Esprit Saint au milieu d'eux? Oui, l'Esprit Saint était déjà là, à ce moment-là. Et l'apôtre Paul, dans ses épîtres, nous rappelle, Romains chapitre 8, versets 13 à 14, « Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Galates chapitre 5, versets 24 et 25, « Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre, avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Alors comment savons-nous, en ce moment, que nous sommes conduits par l'Esprit? Il me semble que nous pouvons le voir, que nous pouvons le savoir, quand nous voyons quels fruits nous portons. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Si effectivement nous voyons ces fruits, eh bien c'est un bon indicateur qui nous montre que nous sommes effectivement conduits par l'Esprit. Par contre, gare à nous quand ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Parce que là, ce que nous voyons dans notre vie, c'est quoi? L'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, les querelles, les coups de colère, l'envie, les excès de table. Le péché, frères et sœurs, n'est jamais un bon maître. Mais combien nous aimons encore y retourner. Et pourtant, Dieu ne nous abandonne pas. Pourtant, Dieu nous conduit par son Esprit, comme il a conduit le peuple par la colonne de nuée et de feu. Nous ne sommes pas seuls sur notre itinéraire. Il est là. Et nous avons vu que Dieu sauve son peuple, également qu'il conduit son peuple, qu'il marche avec lui. Mais quelle est la raison profonde pour laquelle Dieu a fait tout ça? Pourquoi il fait tout ça? Eh bien, troisièmement, parce que Dieu fait éclater sa gloire. Parfois, nous ne tarissons pas d'éloges à l'égard de ce qui force notre admiration. Pensez à tout le bien que nous pouvons dire d'une personne. « Ah, cette personne, elle est géniale, tu devrais la rencontrer !» Ou d'un film. « Ce film est trop bien, je te conseille d'aller le voir !» Ou ce livre. « Ce livre est trop bien, je te conseille de le lire !» Ou encore d'une performance sportive. « Tu as vu son dribble ? Le geste qu'il a fait ? Tu as vu le but ou le panier qu'il a marqué ?» Et plus ça sort de l'ordinaire, et plus nos mots révèlent combien nous sommes impressionnés. Et je pense que c'est tout à fait normal que face à l'extraordinaire, eh bien, on s'enthousiasme. Même s'il est vrai que nous ne le faisons pas toujours de la bonne façon, et que parfois nous tombons dans l'idolâtrie. Maintenant, considérons tout ce que nous avons déjà dit à propos de Dieu, à propos du texte de l'Exode. Considérons que ce que Dieu a fait sort de l'ordinaire. Considérons que ce que Dieu a fait en envoyant Jésus à la croix sort de l'ordinaire. Est-ce que c'est vrai? Plusieurs versets de notre texte nous conduisent à la raison pour laquelle Dieu est intervenu pour son peuple. Et j'aimerais les parcourir avec vous. Exode chapitre 14, verset 4. Dieu dit « J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Toujours dans le même chapitre, versets 17 à 18, « Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux et le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. » Verset 18, « Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Chapitre 15, versets 1 à 3. « Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. L'Éternel est un vaillant guerrier. Son nom est l'Éternel. Verset 6, toujours dans ce chapitre 15. Ta main droite, Éternel, est magnifique de force. Ta main droite, Éternel, a écrasé l'ennemi. Et verset 11. Qui est semblable à toi parmi les dieux, Éternel? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Dieu a jugé le Pharaon et les Égyptiens. Il a noyé sans doute l'armée la plus puissante de l'époque. Dieu a été victorieux. Il est venu au secours du plus faible. Il a sauvé les Israélites. Et c'est ainsi que Dieu se fait connaître. Voilà quel Dieu il est. C'est pourquoi son peuple chante ses louanges. Dieu est intervenu comme il l'a fait pour que son nom soit reconnu. Non seulement par son propre peuple, mais aussi par ses ennemis. Devant Dieu et devant ce qu'il a fait pour notre salut, ne tarissons pas d'éloges non plus. Ne tarissons pas d'éloges. Oui, rendons-lui gloire jour après jour et au-delà du dimanche. Oui, chantons en l'honneur de l'Éternel qui a fait éclater sa gloire lorsqu'il a vaincu le péché et la mort. Et la semaine prochaine, à Pâques, nous devrions pousser des cris de joie parce que Christ est ressuscité. C'est la garantie que nous ressusciterons aussi. De telle sorte qu'on puisse dire « La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire ?» N'est-ce pas plus extraordinaire que tout ce que l'être humain peut réaliser ici-bas? Nous pouvons acclamer les meilleurs joueurs de foot, de basket ou autre. Nous pouvons admirer les personnes qui font des choses extraordinaires. Mais ce que Dieu a fait en Christ est encore plus extraordinaire. Imbattable, incomparable. Essayez de me trouver quelque chose qui soit plus fort que ça. À la mer des roseaux, Dieu a fait éclater sa gloire. Il a vraiment démontré qui il était. Il est l'Éternel, le Dieu sans égal, redoutable et digne d'être loué. Et c'est pour cette raison que semaine après semaine, culte après culte, nous chantons les louanges de Dieu. Nous qui avons été libérés de l'esclavage du péché pour appartenir à Dieu, nous chantons à sa gloire. Et ce qui est particulier le dimanche, c'est que nous nous réunissons pour ça. Pour célébrer collectivement, comme une foule dans un stade de foot, pour célébrer collectivement, comme un seul peuple, notre Sauveur. Et je me rappelle les paroles d'un chant que nous entonnons de temps en temps. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Imaginez des supporters de foot qui diraient ça à la place. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Voilà comment nous pouvons honorer Dieu, comment nous pouvons lui rendre gloire. Et alors que nous entrons dans cette semaine qui précède Pâques, repensons, sans nous lasser, au salut extraordinaire que le Seigneur a accompli pour nous. Et qu'en pensant à tout cela, cela puisse nourrir notre louange. Car Dieu a fait ce qu'il a fait pour que nous lui rendions gloire. Pour que nous puissions l'acclamer, pour que nous puissions le célébrer, pour que nous puissions pousser des cris de joie devant lui. Il a fait ce qu'il a fait pour que nous le rendions gloire. Et je termine par ce verset en Éphésiens 1, qui confirme que c'est ça la vocation de l'Église. Pas seulement notre communauté, mais l'ensemble des rachetés. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 6. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Nous avons été libérés pour continuer à célébrer notre Dieu. Et nous continuerons à le faire la semaine prochaine et les semaines suivantes. Dieu a fait ce qu'il a fait pour que nous puissions lui rendre gloire. Ce que Dieu a fait au temps de l'Exode était déjà très impressionnant. La mer qui s'ouvre pour que les Israélites puissent la franchir, la traverser à pied sec. La mer qui se referme sur les Égyptiens. Et nous avons vu la manière dont Dieu s'est révélé par sa main puissante. Ce Dieu qui est présenté comme un guerrier. Alors, je n'ai pas le temps de développer cet aspect-là, mais il se présente ici comme un guerrier. Alors oui, louange à notre Dieu qui a accompli une libération encore plus incroyable par la mort et la résurrection de Jésus, en brisant le pouvoir du péché sur nous. Louange à notre Dieu qui conduit ses enfants par le Saint-Esprit pour nous faire quitter le rivage du péché et pour que nous puissions vivre toujours plus comme des esclaves de Dieu, en pratiquant la justice, en progressant dans la sainteté, jusqu'à ce que nous arrivions à la demeure du Père. Et vous remarquez que l'œuvre de l'Esprit, c'est de nous conduire toujours plus vers plus de liberté. Liberté par rapport au péché. Vous avez remarqué ça? Ce que l'Esprit fait en nous, c'est de nous conduire, de nous éloigner toujours plus du rivage du péché, pour nous conduire toujours plus vers plus de liberté. Et enfin, louange à notre Dieu, qui a effectivement fait éclater sa gloire, au moment où tout était accompli à la croix, au moment où Jésus est revenu triomphalement à la vie, au moment où notre Sauveur est retourné auprès du Père, là où il règne actuellement sur nous, avant de revenir, pour que nous soyons là où il est. Alors louange à notre Dieu, qui règnera éternellement et pour toujours. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Remarquable, Seigneur, ce que tu as fait. Impressionnant la manière dont tu as secouru les Israélites. Mais encore plus incroyable ce que tu as fait par Jésus-Christ. Quand nous mesurons le coût du sacrifice, quand nous nous rendons compte que par amour pour nous, Jésus, ton Fils, s'est donné à la croix. C'est tellement remarquable, tellement incomparable par rapport à toute réalisation humaine confondue. Nous plions le genou devant toi, Seigneur, de prendre conscience que c'est un si grand salut que tu as opéré pour l'humanité, pour nous, qui pouvons en bénéficier dans ta grâce. Pour nous qui avons placé notre confiance en toi. Et je prie, Seigneur, que si parmi nous il y a des personnes qui n'ont pas encore placé cette confiance, qu'ils puissent le faire en considérant la liberté que tu offres, liberté par rapport au péché. Merci, Seigneur, de continuer à nous conduire sur cet itinéraire que nous ne connaissons pas, mais où nous pouvons être assurés que c'est toujours vers plus de liberté. Plus de liberté par rapport au péché. Merci Seigneur parce que nous avons aussi cette espérance que tu es en train de nous conduire jusqu'à ta demeure. Et enfin Seigneur, oui nous voulons te célébrer, oui nous voulons te rendre gloire parce que précisément, tu as fait éclater ta gloire lorsque nous regardons la croix, lorsque nous regardons la résurrection, lorsque nous regardons l'ascension de Jésus et le fait qu'il soit assis à ta droite. Oui, Seigneur, tu nous révèles tout cela dans ta parole. Et nous te prions que durant cette semaine qui est devant nous, nous puissions prendre toujours plus conscience de la grandeur de ton salut. Et combien nous-mêmes, nous sommes tellement imméritants par rapport à ce que tu as fait. Que notre propre péché puisse nous sauter aux yeux, Seigneur, afin que nous puissions considérer combien ta grâce est grande et que nous puissions célébrer la gloire de ta grâce. C'est ce que tu nous appelles à faire et c'est ce que nous allons continuer à faire durant ce culte. Au nom de Jésus. Amen.